Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie, et cette semaine, c'est un explorateur et entrepreneur que je reçois. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que mon mantra cette année, c'est « nourrir mon âme, pas mon ego ». Et on peut dire que c'est exactement ce qu'a fait Stan, mon invité du jour, il y a de cela 5 ans maintenant. Trader dans les salles de marché pendant plus de 10 ans, manager de plus d'une centaine de personnes et bénéficiaire d'un très gros salaire, Stan se sentait pendant des années à sa place. En soi, il aimait ce qu'il faisait, il ne trouvait pas de véritable raison au changement. Même s'il devenait de plus en plus orienté vers la performance, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, il ne se rendait pas compte que ce métier, vide de sens, ne l'épanouissait pas réellement. C'est à la naissance de sa fille que Stan a un eureka. Il ne peut continuer en pilote automatique, il faut qu'il agisse pour faire de ce monde un monde meilleur. C'est là que naît l'idée d'Explora Project, repenser le tourisme pour organiser des voyages durables et proposer des expériences qui ont du sens. Stan travaille sur le projet d'Explora Project en parallèle de son job, avant de se lancer dans l'aventure avec son associé Alix. Comment parvenir à réinventer un tel secteur? Comment faire face à la concurrence? Comment réaliser près de 300% de croissance chaque année? Ce sont autant de questions auxquelles on répond dans cet épisode. Si vous appréciez écouter InPower, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Stan Gruau. Bonjour Stan.
Salut Louise.
Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir plus sur voilà, tout ton parcours qu'on a un peu abordé. Pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Carrément. Donc je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 35 ans aujourd'hui. J'habite donc entre Genève et Annecy. Je suis le mari de Constance, une femme qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'elle porte énormément derrière le rideau, dans la partie moins visible de ma vie, et, du coup à la fois en logistique de nos deux filles, Philippa et Castille, qui ont 2 et 5 ans. Et beaucoup en soutien, en conseil, etc. Donc ça c'est vraiment important parce que effectivement c'est une partie très importante de ma vie et qui permet tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai été trader pendant 10 ans et ça a été une vie assez radicale, assez extrême, où j'ai beaucoup appris sur moi, mais d'une manière agressive. Voilà, il y a différentes manières, je pense, d'apprendre sur soi. Et là, je l'ai appris de manière assez brutale. Et j'ai tiré beaucoup de choses de cette période-là, mais surtout aussi beaucoup de leçons et beaucoup de force pour le projet d'après, qui était de lancer Explora Project, agence de voyage d'aventure durable que j'ai lancée à 30 ans à la naissance de ma première fille et dont je suis aujourd'hui cofondateur avec Alix qui m'a rejoint il y a 2 ans. Et donc on est des happy founders à Annecy.
Ok, génial. Écoute, bon, plein de questions me viennent. J'ai envie de revenir d'abord sur donc, ton ancienne vie de trader. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce métier-là à la sortie de tes études?
Franchement, c'est une bonne question et je ne me la suis posée qu'en en sortant, tu vois. En gros, pendant toutes ces années-là, ça a été un tunnel. C'est vraiment l'image est la bonne. Et en fait, je me suis dit à la fin, mais au fait, pourquoi, quand je commençais à souffrir un peu de cette situation-là à plusieurs égards, je me suis dit, mais pourquoi au fait tu étais rentré dans cette vie-là? Et en fait, je ne savais pas. En fait. Et à essayer de reconstituer. Je pense que c'est pour des mauvaises raisons que j'ai globalement refoulé, mais je pense que c'est pour des raisons sociales. C'est-à-dire que c'était l'époque de... Je suis rentré en 2009, post la crise de Lehman Brothers, crise des subprimes, dont on a parlé évidemment mondialement et qui nous a tous transformés.
C'était pas le meilleur moment pour entrer dans la finance en plus.
Et c'est donc en fait un premier élément de réponse, c'est peut-être que je suis rentré pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en fait c'était tout le monde dit mais c'était pas le bon moment, et pour moi c'était le bon moment parce que c'était le moment où le secteur était sous les feux de la rampe. Et c'est peut-être ce que je cherchais, tu vois, en fait. Donc en fait j'allais chercher une espèce de métier qu'on avait mis en avant dans les médias. Il y avait l'affaire Kerviel aussi quelques temps avant, où finalement qui était un bad guy. Donc en fait tu pourrais dire mais pourquoi ça t'a attiré, en fait? Bah parce qu'en fait j'avais envie d'être à l'endroit qui était un peu bouillant, que je sentais pour des mauvaises raisons, et c'est là où je dis que c'est, enfin, que cet endroit était ces salles de marché a créé un univers pour moi, alimenté par des films aussi qu'on connaît,
l'imaginaire, je vois,
a créé un imaginaire que j'avais envie en tout cas de tester.
Ouais.
Je pense que c'est à peu près pour ces raisons-là que j'y suis rentré. Les salaires effectivement étaient élevés aussi, mais je pense qu'à l'époque c'était juste un truc qui me faisait marrer de dire à la bière du vendredi avec trois potes, mais en fait je m'en foutais un peu, c'était pas trop ça, c'était pas vraiment le salaire à l'époque, c'était juste tester. Et effectivement quand j'ai commencé, j'ai par contre vu que c'était extrêmement addictif en fait sous plein d'aspects quoi. Donc il y avait ce côté tu peux être en quelques secondes, en quelques minutes, tu peux être un dieu aux yeux de l'échelle d'évaluation d'une salle de marché, hein, qui n'est pas celui de la vraie vie. Mais toi, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent très vite.
Ouais.
Wow, t'es une star, etc. Alors que, mais c'est qui ce mec,
Kofi?
C'était le stagiaire qui était dans le coin, là. Et donc, c'est super grisant parce que d'un coup, tu existes à une vitesse absolue. À l'inverse, tu peux devenir une merde en deux minutes parce que tu perds tout et là, si tu refais la même chose demain, t'es viré et on te le dit devant tout le monde. Donc en fait, c'était très agressif dans un sens et dans l'autre, et comme dans l'autre. Et moi, à cette époque-là de ma vie, au tout début, j'étais vraiment, mais j'ai rien à perdre, tu vois, il faut que j'essaye. En gros, je sortirais, on prenait souvent cette image-là avec les collègues, on sortira sur civière, tu vois, en gros, il faut qu'on essaye tout, et on a tellement qu'à gagner et pas grand-chose à perdre, parce qu'au pire, on ira retrouver un autre taf, on est diplômé d'une grande école, on trouvera un truc, tu vois. Donc, c'était un peu all-in, j'ai rien à perdre, j'essaye, et de fil en aiguille, donc je suis rentré pour des assez mauvaises raisons, et en revanche, de fil en aiguille, j'ai retrouvé une confiance que la boîte me faisait, du management, des équipes, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 150 personnes qui me reportaient. Du coup, à la fin, ça devient une autre vie, tu vois, un autre métier. Et puis, les salaires sont allés grandissant jusqu'à, entre l'entrée et la sortie, faire x15, je crois, sur les salaires fixes. Les salaires variables étaient 100% du fixe, donc ça donnait des sommes qui pouvaient être astronomiques sur le papier. Et du coup, bah ça te fait pas rester, mais ça te fait attendre un peu avant de partir. Et en fait, t'attends un peu.
Les fameuses menottes dorées.
Ouais, exactement. Et j'y suis resté 10 ans.
Ouais. Et on en parlait un peu en intro. Tu disais que en fait, ça change un peu ton état d'esprit. Et en fait, c'est vrai que j'ai fait dernièrement plusieurs podcasts avec une docteure en neurosciences ou voilà, quelqu'un qui avait étudié un peu aussi le fonctionnement du cerveau. En fait, c'est fou à quel point juste la répétition muscle des parties de notre cerveau. Et en fait, toi, le fait de, à chaque fois, devoir faire un peu ce rapport humain vs argent, a musclé la partie de ton cerveau à plutôt voir ce chiffre grossir et donc à te déshumaniser, entre guillemets. Hein. Mais je trouve ça fou à quel point c'est un process qui peut être complètement inconscient.
Ouais.
Quand est-ce que t'en prends conscience, toi? C'est quand t'es parti ou tu t'en rendais compte sur le coup voilà, tu commençais à te soucier plus de choses très matérielles et moins humaines?
Alors, c'est très juste ce que tu dis. Je ne crois pas m'en être rendu compte dans les premières années, en tout cas. Alors, il y a deux choses. Il y a dans les biais négatifs, en fait, dans les biais comportementaux négatifs de ce genre de carrière, pour moi, j'en vois deux. Il y a effectivement le rapport au matériel et à l'argent. Et il y a le biais du toujours plus. Tu vois, d'une formation de l'esprit qui est de dire j'en veux plus, je veux être le premier, je veux être très compétitif, qui est différent de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a, et moi, il y en a un qui a extrêmement pris chez moi, c'est le deuxième, c'est le côté d'être compétiteur, gagner toujours plus, je veux toujours plus. Et le côté argent. Le côté argent n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire que effectivement, ça, je pense que ça a retardé le process de sortie, parce qu'on s'installe dans quelque chose, mais. Effectivement, à part un loyer qu'on payait trop cher avec ma femme à Genève parce qu'on avait trop grand, mais en même temps on avait deux chambres d'amis et qu'on recevait plein de potes et qu'on faisait plein de soirées, etc., il n'y avait pas d'extravagance non plus, tu vois. On était quand même assez. On avait un rapport à l'argent qui restait sain, quoi. On aurait pu mieux l'utiliser, je pense, au regard maintenant. En plus, en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que pour galérer à aller faire des levées de fonds, etc., tu te dis, mais attends, mec, t'es con, t'aurais dû. Tu vois, si tu avais économisé pendant 2-3 ans ça, tu aurais fait ta levée de fonds tout seul, tu vois, c'est quand même stupide. Donc c'était mal utilisé, mais c'était pas extravagant non plus. Par contre, effectivement, ce côté compétiteur était devenu, avait, comme tu le dis, par capillarité, en fait, pris tous les autres pans de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je faisais, il fallait toujours plus. Toujours plus, toujours premier, toujours gagner, toujours etc. Et c'était une course en avant, une espèce de fuite qui s'est projetée sur deux choses, sur le sport, donc moi sur la course à pied, où là c'était devenu, j'ai commencé par faire un 10 km et quelques années après, j'avais le record de la traversée de la France en courant. Mmh, tu vois. Mmh. On me dit, pourquoi t'as fait ça ? Pour peut-être des mauvaises raisons, mais en même temps, c'est des mauvaises raisons à la base peut-être, mais c'est un bon résultat. Alors tu vois, tu as tendance à gommer un peu le process et à prendre que le résultat et à en être fier. Mmh. Mais c'était clairement excessif. C'était clairement, il fallait que je sois le meilleur en course à pied sur l'ultra endurance. Je rentrais tous les soirs en courant du boulot à pied. Je faisais 21 km tous les soirs, un semi-marathon tous les jours, entre Saint-Germain-en-Laye où était la salle de marché et Paris 15e, 16e où j'habitais. Mmh. Et donc en fait, et des copains me disaient, on boit une bière ce soir. Non, moi, moi j'entends courant, machin. Donc j'ai eu des années où j'étais complètement coupé de tout. Ma vie était dans, il y avait deux sphères dans ma vie. Je veux être le meilleur en ultra-endurance en France et je veux être le meilleur trader de la planète. Quoi. Voilà.
Moi, quand j'entends ça, je me dis, en soi, l'aspect compétition, il peut être un moteur, tu vois, il peut être sain, mais alors dans ce truc de toujours plus, ma question c'est, est-ce que tu arrives quand même à être satisfait de ce que tu avais, de tes accomplissements
En fait, non, je pense pas. Tu vois, c'est là où c'est un peu dangereux, c'est que c'était... je suis allé jusqu'à une pratique du sport en l'occurrence qui était addictive parce que les endorphines rentrant en ligne de compte, la répétition, le besoin corporel, etc. font que effectivement c'est devenu une addiction complète. J'arrivais plus vraiment à en être satisfait pendant le process. Je suis allé jusqu'à faire du coup une cinquantaine de marathons de partout en Europe, de 100 miles, de trucs vraiment, tu vois, d'Ironman, de... Je me souviens d'être content quand j'avais ma médaille ou quand j'étais finisher ou machin, mais pas plus que ça en fait. Et comme la traversée de la France en courant, je fais ça en 2011, je retourne bosser le lundi, tu vois. Enfin, le lundi, j'ai pris une semaine de congé après, et après je suis retourné bosser. J'ai mis ça sous cloche pendant 10 ans ou 9 ans. Et j'en reparle là, on fait avec Explora, on me ressort ça, et je réalise, et j'en suis hyper fier maintenant, alors qu'en pendant 8-9 ans...
C'était juste pour dire que tu l'avais fait, quoi. C'était vraiment la fin plutôt que le moyen.
Et c'était même pas la fin. Il y avait la traversée de l'Europe, j'avais d'autres choses.
Il n'y avait pas de fin.
Il n'y a pas de fin. C'est là où c'est dangereux, en fait.
Et comment tu l'expliques, tu penses, ce besoin de toujours plus ? Tu penses que c'est de par le métier que tu avais à l'époque ?
Bon, il y a deux choses. Il y a effectivement, je pense que le métier a renforcé des traits de personnalité qui étaient déjà présents et qui sont, alors là c'est un peu compliqué, il faudrait rentrer dans quelques heures de psychanalyse, mais qui sont effectivement liés à, je pense, l'enfance que j'ai eue. En fait, c'est l'effet de bord négatif d'une enfance joyeuse et qui a beaucoup d'aspects positifs à bien d'autres égards. Donc en fait, je le vois comme ça. Tu vois, c'est un effet de bord mineur et négatif d'un effet d'une enfance en pleine confiance, en représentation, en cheering up de mes parents qui m'ont poussé et qui m'ont permis de faire plein d'autres choses super bien.
Ouais.
Mais effectivement, l'effet de bord, c'est qu'il y avait une espèce de côté d'un peu de toute puissance en mode... Tu peux tout faire, mon fils. Je grossis le trait, mais tu vois, tu peux tout faire. Tu vas y arriver. T'es intelligent. T'as confiance en toi. Quand tu parles, on a envie de te suivre. Tout ce que tu fais, c'est génial. Donc, du coup, ça m'a permis de dire, d'avoir confiance, de jamais être inquiet dans mes choix, de lancer ma boîte. Et là, aujourd'hui, quand on me dit, non, mais c'est impossible, je me dis, yes, c'est maintenant qu'on va jouer alors.
Tu vois, parce que, le challenge est là.
C'est possible. Tu vois, et effectivement, l'effet de bord, il est que ça te.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te prends des claques ? Parce que généralement, c'est des personnalités où, pour le coup, comme t'as pas l'habitude des claques, ça peut être très déstabilisant.
Ouais.
Parce que j'imagine, est-ce que à chaque fois que t'as fait un défi sportif, t'as eu la médaille ?
Écoute, c'est comme à cette question.
Il va nous dire oui. Là.
Quels sont tes échecs ? Tu vois ? Je suis très mauvais parce que et je pense que à répondre à cette question parce que je pense que je suis pas encore au bout de mon process en fait et qu'aujourd'hui je te dirais j'ai pas eu d'échecs. Et je te dirais, ouais, j'ai eu à peu près toutes les médailles. Alors, j'ai eu toutes les médailles, j'ai pas gagné toutes les courses. Parce que j'étais finisher de tout, j'ai déjà abandonné pour des raisons que je connais.
Donc en fait, c'est plus que tu l'as pas ressenti comme un échec.
Non.
Parce que des personnes comme ça, très exigeantes envers elles-mêmes, pourraient voir l'abandon comme un échec ultime, tu vois. Toi, t'avais ce recul pour te dire, j'ai fait mon max et.
Ouais, où je me trouvais des explications qui étaient exogènes, tu vois. Mm-hmm. Il y avait un truc, problème d'alimentation, j'aurais pas dû faire ça, j'ai machin, mais physiquement, j'aurais pu le faire.
Bah tant mieux, hein, ça te protège bien.
Ouais, du coup, je pense effectivement une bonne capacité à se protéger. Ouais. Parfois, un peu trop d'indulgence, peut-être dans les moments d'échec envers soi-même. Ça, mm-hmm. c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Être plus dur dans les échecs pour en tirer des vraies conséquences et pas se dire ce sont des éléments exogènes, c'est pas moi, etc. Mmh. Je dis pas que je le fais, mais effectivement, comme je suis incapable de remonter des échecs cuisants forts sur lesquels j'ai vraiment rebondi, il y en a peut-être un, mais il était pas cuisant, il était diffus. C'est la fin du trading où finalement, en fait, pendant des années, j'ai pas vu des signaux faibles que mon entourage m'avait plusieurs fois donné c'est des phrases, un signal faible, c'est mec, t'es chiant à nous parler tout le temps du taf là. Ça, c'est un signal faible d'un pote, tu vois. Franchement, je te l'ai déjà dit, t'es relou. Bon, lui, on laisse avec son trading, il nous fait chier avec ses euros. Et ben, moi, je gagne moins, mais je suis heureux, tu vois. Ça, mmh. c'est des signaux faibles hyper importants de copains. Ça veut dire, mec, t'es lourd. Tu valorises pas, tu valorises socialement quelque chose qu'eux ne valorisent pas. Tu es en train de faire ça pour des mauvaises raisons. Attention. Et pareil pour le boulot. Bon, finalement, tu peux pas lâcher ton portable, chérie, sérieux, t'es toujours sur tes marchés financiers, c'est relou. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu vois, ça, c'est évidemment des choses qu'il faut vraiment entendre. Et de même que, dis non, t'es dur, hein, je t'ai trouvé dur avec cette personne, tu vois, dans des nouvelles relations. C'est là où je me suis rendu compte que mon rapport à l'autre avait changé. Quand dans une nouvelle relation où il se passe rien, où tu dois, même dans une relation, on a organisé avec ma femme notre mariage, je gérais les prestataires et elle me disait, mais dis donc, t'es sec hein, dans les mails, dans les trucs, c'est pas une négo de trading, tu vois, on se calme, tu vois. Et moi, j'étais, tac, chaque relation, chaque truc, ouais, je mets la pression, comme ça, elle va livrer le truc plus vite et tout. Je me disais, bah non, je sais pas, il y a peut-être d'autres manières d'arriver à ses fins sans mettre la pression, tu vois. Et en fait, c'était devenu un modèle pour moi. Donc, tous ces éléments-là, c'était des signaux, j'ai pas su les entendre en leur temps, et ça, je le regrette. J'avais une approche... une intelligence émotionnelle pas du tout assez développée, tu vois. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, sur cette question, ça a été un des coups de bambou, c'est que dans cette boîte de trading dans laquelle j'étais, étant donné mon poste, ils avaient fait assez régulièrement, on avait des évaluations à 360, où, à l'époque, je crois que c'est 80 personnes avaient donné des feedbacks sur moi dans la boîte. Donc toujours pareil, des gens qui me reportaient, des moins N+1, N+2, les N+3, des peers qui avaient les mêmes niveaux que moi, etc. Et en fait, c'était driving success avec en étant focus sur les résultats 100%, tu vois, ou 98%, et toute la partie humaine, toute la partie ressentie, j'avais 12 ou 13 sur 100, tu vois. Donc en fait, c'était vraiment la machine, quoi. Donc effectivement, le management aimait bien, mais en fait, les équipes souffraient d'une certaine manière, tu vois. Et encore pire que ça, j'ai vu que j'avais en fait créé des managers en dessous de moi qui avaient les mêmes comportements et qui se calquaient sur l'homme que j'étais et ma manière d'arriver à des fins de résultats financiers. Donc gros problème. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai eu quelques semaines ou quelques mois où je me suis dit là, c'est n'importe quoi, là, n'importe quoi.
En même temps, c'est vrai qu'on n'enseigne pas le management humain, je trouve. Enfin, déjà, on n'enseigne pas vraiment le management tout court. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très facile quand tu as juste des objectifs de résultats, de pas vraiment te soucier de comment tu y parviens et uniquement de te soucier, ben, moi, mon but, c'est de cocher cette case et donc je vais activer la machine pour y arriver, quoi. Est-ce que tu l'as appris maintenant, ce management humain ?
Ouais, bah, oui. Pour répondre à ta question, ça dépend de la boîte dans laquelle tu bosses, tu vois. S'il y a des boîtes qui valorisent pas aussi le bien-être au travail, qui valorisent pas le fait que toi, en tant que manager, tu les fasses grandir, ils aient l'impression d'avoir une oreille attentive, ils ont l'impression de se sentir écoutés, entendus, etc. Effectivement, quand tu es dans des structures qui ne valorisent pas ça, comme c'était le cas de la mienne, enfin dans laquelle j'étais trader, bon, bah, moi, j'étais un gars pragmatique, on me donne des objectifs, une incentivée là-dessus, boum, quoi. Et donc, en fait, c'est vachement lié au secteur. Aujourd'hui, effectivement, et dans l'entrepreneuriat, c'est presque l'exact opposé. Et t'es dans des tellement petites équipes au début que ta boîte, c'est les quatre personnes qui sont autour de la table, ou les trois, ou les deux au début. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est super important pour moi, même si j'ai, j'ai avec le trading analysé vraiment dans cette période-là mes derailing factors. Tu vois, donc les moments où les éléments ou les déclencheurs qui font que je déraille de ce que je devrais faire et je retourne dans un comportement qui n'est pas bon. Mmh. Et maintenant, je les ai bien analysés et j'en parle avec l'équipe. Quand ça arrive, je dis là, il y a cet alignement de objectifs hyper, hyper intense, clé pour l'entreprise dans un laps de temps qui est très court. Et en face, l'impression que l'équipe n'y met pas l'énergie qu'elle devrait y mettre, ça là, la combinaison de ça, ça me fait péter un câble. Et du coup, je risque d'être hyper pushy et d'oublier les barrières de correction ou de machin qu'on sait toujours. Je vais vous parler beaucoup plus cash et ça va être plus brutal dans le rapport humain. Et ça, en fait, cette chaîne-là, maintenant, je l'ai identifiée et quand elle se met en place, je dis à l'équipe, voilà, il y a ça qui est en train d'arriver. J'ai envie de sortir de ce behavior-là que j'ai eu pendant des années et qui n'est pas bon.
Donc, c'est de la communication, en fait, avant tout. C'est ça aussi, le management bienveillant, quoi. C'est
se connaître aussi, déjà. Ouais. Connaître les autres, donc prendre le temps de les écouter.
Et se montrer humain. Tu vois, et c'est ça où il y a un peu, et j'en parlais avec Michelle Benzeno, un super épisode aussi, qui est la directrice générale de Webedia, où en fait elle dit qu'il faut savoir être vulnérable et il ne faut pas avoir cette image du leader comme étant la personne intouchable, qui est un peu un robot, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, mais qui du coup est vraiment dans l'incompréhension presque avec ses N-1, parce qu'en fait, c'est tellement beaucoup plus entendable, je ne sais pas si ce terme existe, mais on a beaucoup mieux à entendre des directives de la part de quelqu'un qui nous partage ses émotions, ses ressentis, et ce n'est pas un aveu de faiblesse, quoi. Enfin, on confond faiblesse et vulnérabilité, je pense.
Bah, sur ce point-là, je te rejoins. Et sur ce point-là, tu vois, l'histoire d'Explora, elle s'est construite aussi dans un changement de vie. Mmh. Que l'équipe connaît, parce que tu vois, j'en parle beaucoup et on a construit la genèse de la boîte sur mon changement de vie qui vient d'un échec de la vie d'avant avec ses leçons. Donc tu vois, j'arrive en disant, les gars, j'ai eu ça, j'ai gagné beaucoup d'argent, ça ne m'a pas du tout rendu heureux, j'ai managé 150 personnes, il y en avait probablement... alors on avait les meilleurs résultats de toute la division, mais les gars étaient tristes parce que je leur mettais une pression. Donc tu vois, en fait, je suis arrivé avec ces échecs-là
dans mon sac à dos. Tu vois, donc il y a eu des échecs quand même,
ah ouais,
et
non,
des enseignements.
Effectivement, il y en a eu. et du coup, je suis arrivé avec ça, donc l'équipe a tout de suite... Enfin, tu vois, je suis pas arrivé en toute puissance ou en disant moi, tout ce que je fais, c'est bien, etc. Et après, il y a un autre côté, c'est que je suis assez émotionnel dans ma manière de partager ce que je ressens, ou en tout cas, je le fais de plus en plus depuis la fin du trading, parce que je m'étais complètement coupé de ces émotions pendant cette phase-là. Et là, je suis encore dans la phase, tu vois, dans les années où j'ouvre les vannes.
Tentative de récupération.
Pour les 10 ans où elles étaient bien loquées. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a ce moment-là qui peut faire bizarre avec ma personnalité ou avec ce que j'affiche, mais où je peux être hyper émotionnel et du coup pleurer devant l'équipe dans un moment intense, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Mais c'est pas grave, j'ai juste envie de le dire. C'est la société nous le fait percevoir comme quelque chose d'étrange, alors que je pense qu'on vivrait tous bien si... Dès qu'on a envie de pleurer, on pleure, quoi. Dès qu'on a envie de rire, on rit.
Effectivement, moi, du coup, ça m'arrive. Et donc, la running joke, elle est oh putain, il y a Stan qui va se mettre à pleurer, arrêtez. Tu vois, genre, non, c'est un sujet, Stan va se mettre à pleurer. Et du coup, voilà.
C'est une approche très différente, quoi.
Voilà. Ouais. Donc, disons, il y a au moins ces deux choses-là qui font qu'il y a cette vulnérabilité.
Présente,
qui est présente. Ouais.
J'ai envie de revenir un peu sur tes exploits sportifs avant d'aller sur Explora, parce que voilà, t'avais ce truc très compétiteur, mais c'est quand même pas rien de courir, enfin de traverser la France en courant.
Ouais.
Après, on reviendra. Je sais que t'en as fait d'autres, mais déjà sur ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté préparation mentale et même tenir. Sur le long terme, parce que ça a pris combien, une semaine ou deux semaines, je sais plus.
Deux semaines.
Ouais. Comment tu te prépares à ça et qu'est-ce que t'en as ressorti peut-être comme outil, parce que c'est intense, quoi.
Effectivement, en fait, la préparation, c'était essentiellement de revenir du boulot en courant tous les soirs. Donc, tu vois, je faisais 21 km tous les soirs. Je faisais un marathon ou le samedi ou le dimanche, le week-end à chaque fois. Mais tout seul, tu vois, dans les rues de Paris, je faisais 40 bornes, tout seul, quoi. Donc, effectivement, je faisais entre 150 et 200 bornes par semaine de course à pied. Tu te rends compte,
c'est dingue, hein. Et ton corps t'a jamais lâché?
Et mon corps m'a jamais lâché, déjà parce que je l'ai fait à peu près progressivement. Tu vois, ça a été un process sur 2 ans, à peu près. J'ai commencé à beaucoup courir en 2019, j'ai traversé la France en 2021. Pas du tout. 2009 et 2011, putain, déjà, ouais.
Et c'est du plus coup, même
non, non, c'est plus même décennie, merde. Et donc, la préparation a été, tu vois, ça s'est fait progressivement. Je l'ai pris, ouais, je sais pas, j'ai beaucoup travaillé sur mes techniques de course, le corps humain, l'automédication. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu pendant ces années-là. Mmh. Donc, je faisais extrêmement attention à ce que je faisais, à mes étirements, à comment. Comment ne pas me blesser. Je ne me suis jamais blessé, je touche du bois.
Moi aussi, il n'y a pas ma part.
Je me suis... Tiens, le pied de la chaise. Je me suis jamais... il n'est pas en bois, merde. Je me suis jamais blessé pendant ces années, rien du tout. J'ai jamais... Et toujours pas, donc ça, c'est vraiment
comme
cool.
Comme quoi, le mental est fort. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de comme ton mental te drivait tellement... que le corps suivait, tu vois.
Ouais. Enfin, ouais, je suis d'accord avec toi.
Tu vois, parfois le corps lâche, mais j'ai l'impression que c'est plus quand en fait le mental il était pas à 110%.
Ouais.
Et enfin, je sais pas, parce que franchement, voilà, même si tu allais progressivement à courir 200 km par semaine, bosser comme un dingue en salle de marché, enfin, tu vois. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si tu le refaisais, ton corps te suivrait autant.
Ouais, parce que c'est pas un.
Parce que t'as
je suis pas dans ce. Je suis pas dans ce
chemin mental, quoi.
Mais après. Les enseignements et tu vois comment tenir, je me suis quand même rendu compte d'un truc, c'est l'importance, alors on le voit beaucoup dans les leçons de vie, etc., qu'on voit sur les réseaux, mais ça me parle énormément, c'est en fait, il faut se construire effectivement un mental, et tout le monde se dit, bah, lui il a un mental hyper fort, oh, moi tu sais j'ai pas de mental, tu vois, il y en a plein qui réagissent quand je mets des publications, etc., moi j'arrive pas, moi je craque, etc. Et comment toi t'as un mental? Moi je l'ai pas, tu vois, c'est genre je l'ai ou je l'ai pas, mais absolument pas, ça se travaille,
c'est
tu
un
vois,
muscle.
Évidemment que c'est un muscle, et c'est surtout, et comment ça se travaille, alors peut-être de plein de manières, la mienne en tout cas, c'est de ne pas abandonner et de ne pas procrastiner un seul entraînement, tu vois, en fait c'était
c'est
à chaque fois
discipline, en fait.
C'est une discipline de tous les jours, et il vaut mieux courir 10 minutes par jour que 2 heures une fois quand il pense, quoi. Et en fait pas parce que tu vas mieux entraîner ton corps à courir tous les jours 10 minutes, mais plus parce qu'en fait tu auras commencé à créer une infaillibilité dans ta prise de décision, quoi. Et donc tu vas te dire, mais je ne peux plus revenir en arrière. Et plus t'ajoutes comme ça, des jours et des jours et des jours et des jours d'entraînement, où même si c'est dur, t'y vas, bah, tu te construis en fait un roc. Et dans ce moment de course à pied, quand ton corps effectivement te lâche ou est en train de te lâcher, ou quand t'es épuisé et qu'il ne reste plus que le mental, tu te dis, j'irai au bout de cette course. Et du coup, j'irai avec le même process que chaque jour d'entraînement. C'est que c'est un pas devant l'autre, et c'est 100 mètres après 100 mètres ou 1 km après 1 km, et je regarde pas la fin, je regarde le kilomètre d'après. Et avec cette stratégie des petits pas, et ben en fait tu peux toujours faire un pas de plus, en fait, tu peux toujours,
c'est un peu no-brainer, quoi.
Ouais, tu peux toujours faire un pas de plus,
ouais
tu peux toujours faire 50 mètres de plus,
donc tu te dis,
et ainsi de suite.
T'as eu des moments comme ça de grande souffrance, et on peut peut-être rebondir sur, j'ai vu que t'avais aussi fait le désert d'Atacama, qui doit être dans des conditions encore plus difficiles. T'as déjà eu ce moment où tu te dis, genre je veux plus là, c'est vraiment trop dur.
Ouais, alors je l'ai eu beaucoup plus sur la traversée de la France. En tout cas, ça m'a marqué parce que c'était agressif. J'ai eu deux moments. Sur Atacama, je les ai pressentis arriver, puis maintenant j'ai commencé à avoir des mécanismes un peu de défense ou de préparation pour faire en sorte que ça n'arrive pas nécessairement, ou ne pas arriver au bout du process. En fait, dans la traversée de la France, j'ai eu ce moment là où c'était au cinquième jour de course, je devais être dans la forêt du Morvan à peu près, je me souviens des grandes forêts de pins, et qui faisaient mais peut-être 20-25 mètres de haut, c'était très lugubre, il pleuvait, je courais dans les phares de la voiture que conduisait mon père. Il était 1h30 du matin à peu près.
Donc ton père te suivait sur cette expédition?
Il m'a suivi en fait sur cette aventure-là quelques jours. J'avais des copains, ma petite amie de l'époque, un copain de copain qui était kiné, qui conduisait une bagnole sur laquelle on a mis des stickers, un gyrophare, record la traversée de la France.
Et ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir du soutien? C'est pour avoir de la lumière?
C'était pour avoir l'intendance, tu vois, la bouffe, l'eau, transporter le matériel d'un lieu, d'un gîte à l'autre. On avait des talkie-walkies. il me disait, tu vas devoir tourner à droite à la prochaine intersection, attention, c'est une route chargée, il serait plus safe que tu cours sur la bande de terre de droite parce qu'il y a un trafic important. Sur cette partie-là, on va se mettre en warning devant toi parce qu'il y a des camions.
Donc c'est cool, t'avais réussi à embarquer des gens dans le projet, malgré le fait de ne pas être très sociable à l'époque, si j'ai bien retenu, t'as réussi à embarquer les gens, quoi.
Des très bons copains, quoi. Ouais, tu vois, des gars qui étaient OK pour aller au-delà de cette carapace un peu dure de cette période que j'ai traversée. Témoin de mariage et copain encore aujourd'hui, ça va de soi, tu vois. Arnaud, que je salue. et en gros, effectivement, il y avait cette intendance-là. Et du coup, mon père, pendant quelques jours, m'avait accompagné pendant 2 ou 3 jours. Lui-même s'était vachement dépassé parce que lui, qui courait déjà un peu, avait fait un semi-marathon 3 jours de suite, tu vois. Ce qui était déjà pas mal, tu vois. Il avait 60 ans. Ouais. Et ce jour-là, j'ai couru jusqu'à épuisement, en fait, dans cette forêt du Morvan. J'avais, je crois, 92 km à faire ce jour-là. Et j'étais épuisé. C'est-à-dire que je titubais de fatigue. J'ai d'ailleurs presque un blackout, en fait, de ce moment-là. Je m'en souviens à peine. J'étais au bout de moi-même et je tombais, en fait, de fatigue devant les phares dans les phares de la voiture de mon père qui sortait sous une pluie battante. Tu vois, c'était vraiment une scène pour moi de film, quoi. Mmh. Il sortait, il me relevait. Moi, j'étais en pleurs. Et il me disait, allez mon grand, encore un peu, tu vois. Et on a avancé comme ça, où je tombais, il sortait, il me relevait. Tu vois, c'est des moments de vie, tu t'en souviens toute ta vie.
C'est sûr.
Ouais. Je suis rentré dans la voiture, on a fondu en larmes tous les deux quand c'était fini. Quand j'avais fait ces 92 bornes, c'était d'une intensité. Lui devait souffrir de me voir souffrir, tu vois, terriblement en tant que père. Mais en même temps, il savait à quel point c'était important pour moi. Donc, il savait que la meilleure manière de m'aider, c'était de me relever. C'était un moment vraiment hyper fort. On s'est rien dit. On n'a pas pu parler, tu vois, après ça, pendant jusqu'à l'hébergement. C'était un moment intense, en fait, vraiment intense. Et le lendemain matin, il a perdu un de ses proches copains. Et du coup, il a dû partir. Et en fait, il est rentré à Paris. Et en fait, ce double moment intense qu'on avait vécu, dur quand même, où je me suis rendu compte, en fait, l'amour de mon père et du coup de mes parents en filigrane, parce que ma mère ne pouvait pas être là physiquement, mais portait, je pense, les mêmes choses. Va jusqu'à voir son fils souffrir, le laisser souffrir pour que lui arrive au but qui s'est fixé, parce que c'est ça qui va le rendre heureux. Et je les faisais souffrir, tu vois, par procuration ou de manière indirecte. Ça, plus un moment un peu de vie où tu te dis, mais tout ça est très relatif, il a perdu son meilleur copain. Et en fait, ce double moment-là, ça m'a fait... ça m'a mis une espèce de claque où je me suis dit, évidemment que tu vas finir, évidemment qu'il y a plus important. Déjà, tu vas finir, il n'y a pas de sujet, tu leur dois ça, machin. Et tout ça est très relatif, il y a des choses bien plus importantes que ça. Donc, tu vois, ça m'a remis un peu de hauteur, et j'ai un peu décentré. Je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait des gens, une équipe, je n'étais pas tout seul. Et la deuxième semaine était beaucoup plus en ouverture sur les autres. Donc, ça a été un déclic et j'ai beaucoup mieux vécu la deuxième semaine. J'ai repris du poids parce que j'avais perdu 7 kilos au bout de 5 jours. Et du coup, en gros, on s'était dit, si tu arrives jusqu'à perdre moins de 10 kilos, on arrête le défi. C'était la limite que les médecins avaient donnée. Et donc, vu comme je perdais du poids comme un fou, 2-3 jours plus tard, j'aurais été à moins de 10 kilos. Et du coup, et j'ai repris du poids sur cette deuxième semaine, tu vois, à quel point le corps et l'esprit permet aussi. Donc, ça c'est un peu l'histoire de, c'est le basculement de ma vie. Est-ce que ça s'est fait à ce moment-là, dans cette au milieu de ce défi-là? Mais peut-être, j'ai réalisé que j'étais pas seul, en fait. C'était grâce aux autres que je pouvais faire ce que je m'étais fixé, ce que j'avais imposé à tout le monde de devoir réaliser. Donc effectivement, ce moment-là était un moment de grande souffrance et d'apprentissage. Et après, sur la traversée du désert d'Atacama au Chili, c'était 250 km en 6 jours. C'était un peu différent, c'était une course qui était organisée. Alors, effectivement, on n'était pas beaucoup de compétiteurs sur ce genre de truc, on devait être 150 ou 200 personnes. Et là, c'était en 2018, j'avais déjà beaucoup plus grandi dans ma manière d'aborder les défis, la souffrance, etc. J'avais déjà lancé Explore, j'avais démissionné Lancé Explore depuis quelques semaines, donc j'étais vraiment en plein dans ce process-là. Et là, j'avais déjà du recul donc je souffrais physiquement, mais tu vois, j'avais du recul sur, je relativise un peu l'importance de réaliser ce genre de défi. Tu vois, j'étais déjà dans la posture dans laquelle je suis beaucoup plus aujourd'hui.
Plus faire ça pour le fun que pour te prouver quoi que ce soit.
Et là, je suis allé trouver sur cette course-là une force qui est qu'en fait, je trouvais ma force personnelle à aider les autres. Tu vois, dans cette course-là, j'ai aidé beaucoup de gens.
Ouais.
J'ai boosté beaucoup de gens. Deux étapes où je suis arrivé avec les deux fois les premières féminines qui étaient à peu près au niveau que j'avais moi masculin. Je suis arrivé 12e de cette grande course. Et le 12e masculin, c'était à peu près le premier féminin. Tu vois, il se trouve que, et en fait, le fait qu'elle gagne, c'était ma victoire. Tu vois. Et donc, en fait, ça m'a aussi boosté et de voir que j'étais capable de tirer les autres. Ça me faisait oublier pour de vrai ou pour de faux que moi aussi j'étais fatigué. Et en fait, ça me donnait des ailes. Et hyper souvent, c'est comme ça que j'ai abordé cette course-là. Elle était tournée vers les autres. Ça me l'a fait le survoler un peu et être beaucoup plus en maîtrise, beaucoup plus heureux, avec beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus de belles rencontres, voilà, beaucoup moins auto-centré. Donc finalement, abordé complètement différemment et c'est tellement plus riche.
C'est une belle leçon.
Ouais.
On va parler d'Explora Project.
Ouais.
Alors, je me suis demandé déjà, en faisant quelques recherches sur les prémices, j'ai vu que tu avais commencé à bosser sur Explora Project quand tu étais trader,
ouais.
Alors, pendant plusieurs années, si j'ai bien lu. Et là aussi, ma question, tu t'en doutes, c'est comment tu as fait parce que c'est une question que j'ai eue à des événements Girls in Biz que j'organise. Tu vois, des filles qui sont déjà en alternance ou dans un job et qui ont une idée de side project ou de boîte. Mais comment tu le rajoutes à une journée remplie de travail, après ta famille à aller voir, ton sport à faire. Comment tu as fait pour développer ce projet en parallèle?
Toujours pareil avec cette idée de discipline. Chaque jour, je grattais... dans un calepin, un petit morceau de ce que serait Explora plus tard. Et donc, en fait, c'est une discipline que je me suis fixée. Je faisais ça le matin. Donc, en fait, tu vois, comme toutes les
disciplines,
il faut effectivement les ritualiser. Et moi, c'était le matin, quand je prenais le RER A pour aller de Charles de Gaulle Étoile jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, je savais que j'avais 35 minutes, je crois, ou 40 minutes incompressibles. Et donc, j'avais mes calepins rouges. J'en ai 8 aujourd'hui. Que j'ai écrit pendant ces années-là, de plein de choses de ce que pourrait être Explora. Alors parfois, tu vois, c'était un peu extravagant. C'était si on avait un flagship ou un flag store, comment il serait avec des plans, des schémas, des trucs. Tu vois, je suis allé super loin dans le projet, des choses qu'on n'a pas encore lancées, même plein de trucs. Et donc, c'est cette discipline-là. Et ça m'a permis, en fait, donc tu vois, en fait, ma vie pendant 2 ans et demi, voire 3 ans, a été la suivante. Elle a été le matin. Dans mon RER, je grattais Explora Project, qui était la boîte que je lancerais après le trading, parce qu'il y avait cet après qui me permettait de tenir aussi. Je savais que je ne faisais pas ça toute ma vie, parce que j'étais en train de construire l'après. Donc je ne subissais pas mon métro-boulot-dodo, tu vois. Je savais
qu'il y avait l'impression d'agir, quoi.
Ouais, je construisais mon projet d'après, chaque jour un peu plus. Il y avait métier intense de trading, tunnel pendant la journée, le soir la course à pied, qui me permettait de relâcher quand même un peu, et je passais des coups de fil aux copains pendant que je courais. Parce qu'en fait, si t'es capable de parler pendant que tu cours, c'est que t'es à la bonne vitesse.
D'accord.
Donc c'était important pour moi. Donc ça a commencé comme ça, un peu très course à pied.
Ouais, ouais.
J'avais lu ça dans un magazine, je trouvais ça pertinent.
Ouais.
Et en fait, c'était super pratique parce que comme j'étais coupé de tout dans ma vie, j'avais au moins 1h30 chaque soir où je pouvais appeler quelqu'un. Et donc pendant une heure, je me faisais une conversation avec quelqu'un.
Pas de point de côté.
Non. Mais non, okay. Mais si j'étais devenu t'es 200 bornes par semaine,
ouais.
Je courais à 12 km/h comme on marche, quoi. Et du coup, ma vie était organisée comme ça. Et tu dis comment tu trouves le temps? Parce qu'il y a des choses que je faisais pas. Parce que j'avais une vie sociale qui était un peu rabougrie. Alors, j'avais 2-3 énormes teufs de temps en temps quand je pétais un câble. Mais en fait, c'est tout. Assez peu de vie festive, assez peu de vie sociale. Pendant ces quelques années, pendant la majeure partie, pas de petits amis. J'étais en mode, tu vois, robot. Donc ça a été au détriment d'autres choses.
Ouais, mais c'est bien de le dire. Tu vois, parce qu'en effet, les gens se posent la question. Et moi, je l'ai souvent dit aussi dans des vidéos ou autres. Moi, c'était pareil, quoi. C'était... J'avais aussi une discipline, alors en plus j'étais étudiante à côté, donc c'était études, le soir projet, sport le midi ou le week-end, et puis pas vraiment de vie sociale. Et en fait, quand t'as une soirée par mois, ça te contente, quoi.
Ouais.
Donc c'est juste savoir qu'est-ce qui vous nourrit et puis nourrir ce que vous avez besoin de nourrir, et ce sera différent d'une personne à l'autre, quoi.
Et du coup, par contre, ça, et je te rejoins tout à fait, je suis d'accord, et donc j'ai pas été capable de le tenir quand j'ai rencontré ma femme et fondé une famille. Parce qu'en fait, c'était devenu plus important que Explora à ce moment-là. J'avais construit pendant quelques années quand même ce que serait Explora. Et du coup, j'étais un peu en pause là-dessus, le temps de construire, tu vois, d'investir cette relation. J'avais vraiment envie que ça marche. C'était aussi un des piliers de nouveaux piliers de ma vie, de construire une famille. Et j'en avais très, très envie. Donc j'avais envie de mettre tout de... toutes les chances pour que ça fonctionne. Ouais. Et donc, j'ai mis un peu ça en sommeil. Et quand on a été... Et à la naissance, en fait, de ma première fille, le déclic est arrivé. Ce moment, cette étincelle où tu réalises, voilà, bah, est-ce que je suis prêt à avoir du temps qualitatif et pour ma famille et pour ce nouveau-né? Est-ce que je suis heureux, équilibré dans ma vie? Est-ce que mon boulot a du sens? Est-ce que je me projette dans ce boulot pendant plusieurs années? Est-ce que je suis fier de lui raconter ce que je fais au quotidien? Et à l'époque, je me suis dit non. Donc, il y a urgence. Ouais. Quoi.
Bon, bah, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, imaginez si c'était le cas. Ouais. Ça permet, je pense, en effet, de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. Ouais. Pour parler d'Explora, tu le présenteras rapidement quand même, parce que même si j'en parlerai en intro, t'en parleras encore mieux avec tes mots. Mais ce qui m'a interpellée dans mes petites recherches, c'est que j'ai vu que, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'en tout cas, quand j'ai lu cet article, il y avait une hypercroissance de 300% chaque année sur Explora. Et donc forcément, ça interpelle. Voilà, il y a des boîtes qui galèrent. Surtout qu'en plus, on en parlait aussi un peu en intro, mais de ce que tu me dis, toi, c'est plutôt l'offre qui a créé la demande. Donc, plein de questions qui se posent, parce que pour moi, une hypercroissance peut être justifiée si, au contraire, la demande est hyper forte et qu'on arrive avec une offre et qu'on est seul maître à bord. Voilà, est-ce que tu peux nous représenter rapidement ça et nous expliquer les fruits de cette hypercroissance?
Alors, effectivement, hypercroissance en pourcentage, après pourcentage, ça dépend de où tu pars la première année. Donc,
oui, c'est
effectivement,
vrai.
Mais en d'autres termes, on est arrivé en 3 ans de 0 à plusieurs millions,
ouais.
Effectivement, de chiffre d'affaires. Donc,
c'est quand même à saluer.
Ouais, tout à fait. Dans des années Covid. Et en fait, c'est là un élément clé. C'est que je pense que le Covid a joué un effet d'accélération et a fait maturer notre marché de plusieurs années en quelques mois seulement.
Alors, contre-intuitif au possible.
Oui et non, c'est-à-dire oui, il y avait une entrave à la mobilité des personnes pendant cette période-là, mais il y a eu aussi 3 autres tendances de fond sociétales qu'Explora incarnait. La première, c'est la nécessité de mettre le nez dehors et de se reconnecter à la nature, puisqu'on était enfermés et confinés. Le deuxième, c'est la nécessité et l'envie grandissante, exponentielle, de soutenir des marques qui ont du sens et qui servent une mission d'ordre écologique et sociétal. Et ça, c'est un combat générationnel sur lequel on n'a pas forcément à revenir là, parce que c'est une évidence, je pense, pour ceux qui écoutent ce podcast, mais ça n'est pas pour plein d'autres personnes.
Non, mais oui,
mais en l'occurrence,
je pense qu'on ne le rappellera jamais assez, c'est que notre carte bancaire, c'est une façon de voter, quoi. Est-ce qu'on veut soutenir... des marques qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, est-ce qu'on aspire à soutenir des valeurs qui ont les mêmes marques? Et
tout à fait.
C'est vrai qu'on en bénéficie aussi avec je ne sais quoi. Mais du coup, toi, t'avais déjà observé cette tendance de fond, de façon, avant de lancer Explora?
Et bah, paf, enfin, tu vois, la deuxième tendance de fond, ça a été ça. Et la troisième, ça a été le besoin de se dépasser et de se projeter et de se fixer des objectifs qui nous motivent.
Ouais,
parce qu'on a été dans une période... grise, ou en tout cas brouillée d'objectifs. On était, tu vois, c'était embrumé. Voilà,
on
avait du mal à se projeter.
Vraiment, ouais.
On se projetait à... Castex nous parlait de pour 15 jours, pour un mois, et puis en tout, on avait du mal à avoir de la visibilité. Et donc finalement, ce trio a fait qu'Explora s'est retrouvé avec la bonne proposition de valeur au bon moment. Ça a été lié à une communication qu'il y a eu sur notre levée de fonds pendant le premier confinement. Donc effectivement, les gens se sont dit, attends, confinement dans le travel, il y a une boîte qui lève 1,5 million, ça doit être le tourisme de demain, parce qu'il y a des gens qui lui font confiance dans cette phase de crise. Chaque crise amène des opportunités et des changements souvent structurels dans les secteurs. Et donc effectivement, nous, on est arrivé avec une proposition de valeur différente, du voyage d'aventure, d'un point de vue business désintermédié. Donc il n'y a aucun autre acteur entre le guide local et le client final que nous, alors que le travel est très intermédié. Tu achètes à quelqu'un à destination qui opère ton voyage, et puis tu le revends en ligne, et puis tout le monde se repasse en fait le voyage, se saucissonne les marges, se passe d'un service client à l'autre, etc. Et donc, pour nous, c'était un trust et une transparence qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que le consommateur méritait. Donc du coup, on a aussi, d'un point de vue très business, changé beaucoup de choses. Donc on est arrivé avec un environnement de marge beaucoup plus solide que les acteurs du secteur. On a été financé parce qu'on a posé cette vision du tourisme d'après. On a su, Alix et moi, rassurer en mode quoi qu'il arrive, on va y arriver. Cette crise va être une crise d'opportunité et il y aura des places à prendre, une consolidation dans notre secteur et on va être l'acteur qui va le faire. Donc, financer avec le bon produit, sur un modèle de marge beaucoup plus résilient que d'autres acteurs du secteur, et trop petit pour vraiment souffrir. Tu sais, au début, t'as peu de charges, tu peux à peu près couper le marketing et tu mets une partie de l'équipe en chômage partiel, il te reste pas grand-chose quand tu lèves 1,5 million d'euros. Donc tu peux investir en market quand tout le monde coupe. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et effectivement, le cocktail de tout ça a fait que le projet a tout de suite été poussé et on a pu effectivement faire quasiment, je crois, 1,5 million d'euros de ventes dans l'entre-deux confinement. Avec
2020-2021,
juste dans ces quelques mois d'entre-deux confinements, où en fait on a posé des voyages de bivouac, d'initiation à l'alpinisme, de premières expériences sur un voilier, etc., des choses un peu différentes, et on a trouvé un nouveau public. Et de fil en aiguille, tu vois, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui.
Et donc, à l'époque, parce que tu dis, Alix t'a rejoint il y a 2 ans, elle te rejoint avant la levée de fonds, et pourquoi est-ce qu'elle te rejoint?
Un des enseignements du trading, c'est que je ne voulais plus manager seul. Tu vois, je voulais plus diriger seul. Et parce que j'étais effectivement, c'était très vertical en trading. Une seule tête, une seule voix, un seul qui appuie sur le bouton. Tu vois, comme on est sur un partage des... Enfin bref, c'est le modèle classique. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de quelque chose de plus riche, où on se nourrisse. J'avais conscience de mes failles, tu vois, de qui je n'étais pas, ce que j'avais du mal à faire, pour être plus clair, ce que j'avais du mal à faire et ce que je recherchais chez quelqu'un d'autre. Et du coup, tout de suite, rechercher un cofondateur, une cofondatrice. Et Alix s'est imposée pour moi parce qu'elle portait exactement ce que je n'avais pas, une connaissance du tourisme. C'était sa deuxième boîte. Elle avait créé Copine de Voyage, une boîte qui existe encore, du voyage féminin trentenaire, qui était un vrai succès. Elle était basée à Annecy déjà. On avait le même âge, à l'époque 32 ans. On avait ce qui me semblait les mêmes valeurs ou la même éducation. En tout cas, on se comprenait, quoi. Et du coup, j'ai eu énorme fit avec elle. Et tout de suite, je lui ai proposé de me rejoindre. C'était pour moi une évidence. Et donc, elle m'a rejoint fin 2019. Début 2020, avant la levée de fonds.
Elle a dû dire quand même 2 mois plus tard, mauvais timing.
Elle l'aurait eu dans sa boîte aussi, tu vois, dans la boîte précédente aussi, elle était déjà dans le travail.
Parce qu'elle a quitté son autre boîte, du coup.
Ouais, elle a quitté son autre boîte, qui en l'occurrence faisait aussi beaucoup de long courrier, tu vois, donc c'était presque, c'était plutôt compliqué.
Bien vu, en fait.
C'était plutôt compliqué. Ça s'est fait de manière assez naturelle et c'est aujourd'hui l'une des forces du projet. Tu vois, c'est notre duo très différent. D'ailleurs, Alix, on la voit pas trop, mais les équipes la voient beaucoup. Elle a vraiment un rôle CEO de Chief Operations, de DG, tu vois, avec un grand souci du détail et une connaissance du secteur, un recul aussi sur les crises, tu vois, pas se faire des crises du tourisme. Elle fait ça maintenant depuis 6 ou 7 ans. Du coup, elle a vu des hauts, des bas, des saisonnalités, des éléments qui, voilà, et donc beaucoup moins vulnérable à des décisions émotionnelles dans ce genre de moment. Donc, on est arrivé dans cette crise-là, assez serein pour les raisons qu'on a vues avant, et on s'est dit justement c'est le moment de poser des bases différentes pour notre secteur, notamment sur la partie éco-responsable, où en fait on s'est dit là on est dans un nouveau paradigme dans le voyage. Tout le monde est chez soi, tout est bloqué. Et donc, en fait, tu vois, tu as ce sentiment de page blanche qui n'a jamais été autant présent qu'à ce moment-là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui est important pour les gens? On a fait des surveys, Quanti, Cali, on a passé des coups de fil avec nos clients, etc. On a essayé de comprendre ce qui était important pour eux. Et on s'est dit, mais le voyage de demain, c'est quoi? On doit l'écrire maintenant et on doit l'annoncer au moment de la communication de la levée de fonds. Parce qu'on aura une opportunité inouïe de pouvoir communiquer. Effectivement, on a dû faire 3 ou 4 BFM en 2 mois, tu vois, un truc comme ça.
Et alors ça, si je peux m'arrêter juste là-dessus, parce que je sais aussi qu'il y a des filles de Girls in Biz qui lèvent des fonds et il y a cette difficulté d'avoir de la presse, des télés, des médias. Toi, comment? Parce que t'étais nobody en vrai avant. Tu te l'es construit, tu vois, mais comment t'as réussi à avoir ces premières télés, ces premières publications?
J'ai l'impression que le vrai premier moment, ça a été avril 2020. Ça a été effectivement l'annonce de la levée de fonds. Ouais. C'était vraiment le moment où on s'est mis à être connecté, à se connecter à vraiment tous les médias. On a eu une RP qui était, je pense, très douée sur l'annonce de Levé de Fonds.
D'accord. Donc bien entourée.
Que je pourrais donner, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment... elle est forte. Du coup, je pense qu'elle était très bien, très adaptée à des petits budgets de start-up aussi, où on dit, bah, on veut que communiquer... On veut pas un RP tous les ans, tous les mois, tout le temps, en fil continu. On veut communiquer là, sur cette opération, sur 5 semaines, ou objectif communication levée de fonds. Effectivement, elle nous a très bien entendus. On en avait deux. Il y en avait une personne spécialiste de la levée de fonds, communication levée de fonds, et un autre Grégoire qui lui était spécialiste de notre secteur de l'aventure, etc. Mmh. Donc en fait, tu vois, il y avait et le secteur et le happening. On avait les deux. Les deux ont travaillé de concert, et pendant 5 semaines, on a effectivement eu une visibilité hallucinante, qui était aussi contextuelle, parce que c'était le premier confinement, travel, etc.
Ouais. Mais bon, qui aurait pu. Enfin, moi, je le vois avec. Avec les élections présidentielles, je sais qu'il y a plusieurs médias pour la sortie de mon livre qui disaient « Ah oui, mais alors c'est pas la période », ou avec la guerre, tu vois, il y a la guerre en Ukraine, donc c'est pas le moment.
Ouais.
Et j'étais là, bon, en vrai, vous pouvez parler d'autre chose, non ? Donc tu vois, confinement, on ne parlait que de ça. Bon, il fallait trouver les médias qui voulaient parler d'autre chose, tu vois.
Ou alors il fallait trouver un relais, enfin il fallait trouver un rebond avec l'actu.
Ouais, voilà, t'as essayé de le lier à l'actu.
Il y a le confinement et nous, notre solution pour le tourisme d'après.
Okay.
Et aussi, si tu te souviens, il y avait toute cette phase de création de nouveaux médias, d'ailleurs, de ces médias qui s'appelaient Et après, je me souviens, j'avais fait une vidéo pour eux. C'était Et après, et le tourisme d'après, et l'alimentation d'après, et la fast fashion d'après, tout ça, voilà, c'est fini, etc. Donc, tu vois, il y avait aussi cette culture et cette envie de tout le monde de redéfinir les secteurs. Mmh. Et donc, nous, on a été cette redéfinition pour le tourisme. Et du coup, je dirais, comment est-ce qu'on l'a construit ? Donc, il y a eu ce premier moment fort, et après, il y a eu dans le discours, un discours qui est tout, c'est toujours le cas aujourd'hui, qui est un discours qui est engagé. Tu vois, un discours qui est sans langue de bois, qui est engagé, qui est un peu bourrin aussi, tu vois, ce qui est la personne que j'étais aussi, puisque c'est moi qui l'incarne majoritairement. Donc, bourrin, je viens pas du sérail, du secteur, je viens pas du travel, tu vois, j'ai rien à rendre à ce secteur-là. Je sais même pas si je me sens aujourd'hui de ce secteur-là, tu vois, quand il y a des événements travel. Je dis pas que c'est bien, mais moi j'y vais pas, tu vois, en fait, j'ai une mission qui est celle qu'on a avec Explora de réinventer le tourisme et d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement et permettre à chacun de vivre des expériences en outdoor fortes. Mais du coup, c'est tout. En fait, moi, j'ai pas d'attache, je suis le porte-voix de, je suis pas le porte-voix d'un secteur. J'essaye de faire des best practices et de me dire si elles sont copiées, c'est top, elles le sont. Alors, on peut râler, on peut dire, les machins nous imitent, machin a lancé la même chose que nous, machin copie notre manière. Mais en fait, non, on s'en fout, on avance.
Ça sert la mission, quoi.
Faut pas regarder dans le rétro, faut avancer. Il y a du marché pour tout le monde, faut arrêter de regarder les concurrents, il y a toujours de la place pour tout le monde, partout, tout le temps. Je crois pas à ce discours-là par l'exclusion. Donc, grosso modo, on a construit un discours qui était franc, qui était facile à identifier. Et donc, on n'a pas des médias qui nous appellent tout le temps parce qu'on est sur le travel et une certaine niche du travel. Par contre, dès qu'il y a quoi que ce soit qui s'y rapproche, on pense à nous tout de suite parce qu'on a eu ce discours-là franc et un peu bourrin. Et après, il y a eu quelques... happening, on va dire, ou quelques clashs qui ont fait des mini buzz quand j'étais en face du fondateur de Pierre et Vacances sur BFM qui faisait un greenwashing absolu. Il y a eu quelques moments un peu où ça a clashé, qui ont fait parler d'Explora. Donc voilà, il y a eu ces moments-là. Et puis qui veut être mon associé, pareil, tout en fait, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire qu'en gros, je me souviens à l'époque. On me demande beaucoup comment tu as pu faire qui veut être mon associé. Ils ont des dizaines de milliers de candidatures. Et
ah
voilà.
Ouais, à ce moment-là.
Je crois que c'est un truc de fou.
D'accord.
Peut-être que je m'emballe en disant dizaines de milliers, mais c'est au moins milliers. Ouais. C'est un truc de malade. Et si bien que je ne sais même pas si elles sont toutes vues. Enfin, tu vois, il y en a trop quoi, sur ce formulaire-là de candidature qui est en open source sur Internet. Ça postule de partout, même de l'étranger. Et du coup, en fait, à la base, nous, on a été pris là-dessus le dernier jour, une semaine avant le dernier jour de tournage. Il y avait un post LinkedIn de la casteuse, je ne vais pas donner son nom sinon elle va se faire pourrir, mais elle avait fait à l'époque sur LinkedIn un post, on cherche une boîte ou quelques boîtes parce qu'on a eu des agréments dans le tournage, il y a des journées de tournage qu'on ne va pas prendre parce que ça s'est mal passé ou je ne sais pas quoi. Elle avait tourné ça en mode bon il se trouve qu'on cherche des boîtes pour tout de suite quoi. Et mettez en commentaire si vous avez des idées de boîtes. Et en fait j'avais marqué Explora Project, bien sûr, c'est tout. Et le truc, le post a été liké, enfin mon commentaire avait été liké plus que la publi, tu sais, avait été liké genre, je sais pas, des centaines de fois, et donc il avait dû remonter.
Et ça, tu l'expliques comment? Parce que les gens connaissaient? Parce que,
bah ouais,
parce qu'il n'est même pas particulièrement drôle, tu vois?
Parce qu'ils voulaient soutenir Explora pour ça, parce qu'en fait, ça faisait un an qu'on avait décidé d'une stratégie de personal branding, de j'allais incarner la boîte. On s'est dit justement pendant le premier confinement avec Alix, bon, bah maintenant, en fait, tu vois, la démarche assez simple. Bon, c'est la merde pour le travel, attention au coût, même si on a une levée de fonds, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc le marketing payant, faut faire gaffe, faut essayer de débrancher un peu et de faire beaucoup plus de trafic organique sur le site. Organique, quels sont les leviers de l'organique? Il y en a plein, création de contenu, machin. Ok, il y a aussi le personal branding, incarner la marque et avoir d'autres comptes qui, de manière indirecte, font connaître Explora. Qui veut l'incarner? Stan veut le faire, Alix veut pas le faire, go, quoi. Et du coup, on commence comme ça. Je commence à communiquer sur LinkedIn. Ça prend. Là, aujourd'hui, j'ai 30 000 followers. Hein, tu vois, ça a pris en près de 2 ans ou 1 an et demi, mais ça a pris quand même assez vite.
T'as quelques best practices à partager pour se développer sur LinkedIn?
Eh ben écoute, tu vois, moi je suis parti de zéro pour un premier confinement. Je me suis branché à l'époque des masterclass que faisait Grégoire Gambato sur LinkedIn, tu vois, qui lui aussi avait explosé. Il avait quelques best practices. Je me suis inscrit à un truc, une formation qu'il avait fait à 100 balles. J'ai tout écouté, j'ai noté, j'ai eu des trucs, j'étais pas d'accord. Les trois quarts, je me dis ok, cool, je découvre. J'étais très proche aussi d'Alex Viseo. Alex Viseo, qui était un ancien blogueur voyage comme Bruno Maltor, et super connu en France, qui est devenu coach en personal branding après la première mission bêta test qu'il a fait avec moi. Tu vois, je lui ai dit, moi je veux faire ça. Il m'a dit, moi j'aimerais que ce soit un changement de vie pour moi et d'être coach en ça. Est-ce qu'on essaye ensemble de poser les prémices d'une formation en ligne que maintenant qui s'appelle Brandeo Impact, et il a des promos de centaines de personnes tous les trimestres, enfin, c'est ouf. Du coup, on a commencé vraiment ensemble. Il a commencé avec moi, qui était son cas d'école. Et du coup, voilà, effectivement, je me suis rapproché de ces deux personnes-là. Et après, d'ailleurs, c'est ce qui suggère beaucoup, regarder les posts qui marchaient, les tendances, etc. Et surtout, essayer de trouver moi. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur, en fait?
Ouais, tu vois, qui est la base, quoi.
Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Et donc, moi, assez vite, je me suis dit, c'est sur le changement de vie, quels signaux faibles il faut voir, comment on change de vie. Dans cette nouvelle vie, si on veut changer de vie, ça peut être un nouveau salariat dans un domaine qui n'a rien à voir, ça peut être à son compte, lancer sa boîte. Et après, ça ne fait pas du tout peur, ce n'est pas du tout grave, ce n'est pas du tout angoissant. C'est justement hyper, hyper épanouissant, machin. Mais donc voilà, démystifier ça. Et après, sur le travel et sur le greenwashing qu'il y a dans notre secteur, à lancer des gros pavés dans la mare, assez régulièrement, en taguant Club Med, Pierre et Vacances, Center Park, les mecs, vous faites n'importe quoi, tac tac, très bourrin. Donc ça, effectivement, ça a créé un mode.
Et les gens aiment bien le côté
qu'est-ce qui lui prend, tu vois. À essayer de le faire de manière jamais bad buzz, c'est-à-dire jamais pour qui se prend ou machin.
Oui, mais juste tu lanceur d'alerte, toi, plus.
On flirtait quand même avec on était sur la crête, mais toujours d'un côté constructif. Et du coup, voilà, sur Instagram, avec un autre prisme, que j'étais un peu moins à l'aise, qui était un peu plus, ok, bah, les coulisses de la boîte et un peu plus perso, voilà, que je continue à faire, mais maintenant un peu plus côté entrepreneurial, essayer d'apporter des conseils au quotidien pour lever toujours un peu ces petites barrières invisibles qu'on a dans son cerveau. Ça a fait que ce poste-là a été plébiscité sur LinkedIn, et ça a fait que la casteuse m'a appelé une demi-heure après ce commentaire-là. Elle m'a dit OK.
Elle était en galère, de toute façon. Si c'était les derniers jours de tournage, il lui fallait quelqu'un.
Et elle m'a dit. En fait, de toute manière, on vous avait identifié. Il fallait que je vous appelle. Merci pour ce reminder.
Ah ouais.
Et donc, en fait, elle aussi, elle dit, on vous avait vu sur LinkedIn, on avait vu sur les Instagram, on vous avait déjà identifié. Donc, en fait, tu vois comment, il n'y a pas de miracle. C'est des graines que tu plantes. Discipline, tu sais où tu veux aller. Et même si tu as 10 000 followers sur Instagram que j'ai, tu te dis, on s'en fout, c'est nul, c'est petit, ça sert à rien. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui voient. Et de fil en aiguille, Denis Brognard s'est mis à me contacter sur Instagram et LinkedIn parce qu'il avait vu Explora. Alors que comment veux-tu que je sache qu'à l'époque, avec mes 2000 followers, je savais que là-dedans, il y en avait un qui était copain avec Denis Brognard, qui lui avait screenshoté le truc et qui lui avait dit, jette un coup d'œil, c'est génial, va voir. Tu vois, et donc il nous a contacté en disant c'est top ce que vous faites, comment je peux vous aider? Tu étais là, ok, j'ai l'impression que cette rencontre va changer le cours de l'histoire.
Prochaine émission, c'est Koh-Lanta.
Et donc tu vois, voilà, y a pas de recette miracle.
Oui.
Y a un apprentissage des best practices, tu plantes ta graine, t'es résilient, tu sais que ça va marcher un jour, et de fil en aiguille, il y a plein de ramifications qui font que ça fonctionne.
Le chemin se prend forme. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Déjà, je voulais juste parler de cette levée de fonds. de savoir pourquoi vous l'avez fait voilà, à ce stade-là, et quelles sont tes premières embauches une fois que tu as levé voilà, ce 1,5 million. Ça peut être aussi un truc, tu vois, on peut facilement se perdre, surtout ouais. Si c'est la première fois qu'on le fait.
Ouais, alors, puis c'est d'autant plus d'actualité qu'on a la deuxième là, qui va arriver, qu'on va annoncer bientôt et qui est franchement plus grosse. Et donc, nécessairement, mais la démarche est exactement la même. On a, en fait, cette levée de fonds, pour nous, on s'est dit, on est dans un secteur qui est un secteur compliqué, c'est pas un secteur, c'est un secteur usuellement de faible marge, sur lequel il y a une compétition qui est importante, sur lequel il y a un scale, qui est le mot qu'on dit souvent, donc de capacité à faire grandir ta boîte très vite, avec des coûts opérationnels qui n'augmentent pas aussi vite que la croissance de ton chiffre d'affaires, bah, un scale qui est compliqué, parce qu'on a beaucoup d'opérationnels dans notre secteur, et dans notre métier, puisqu'on a des intermédiaires, donc on fait tout, quoi, on fait le guide, le matos, la bouffe, le transport, l'hébergement partout en Europe, donc c'est quand même, on est connecté à littéralement des milliers de prestataires en direct, donc énorme boîte de logistique en fait qu'Explora Project. Et du coup, on s'est tout de suite dit bah, il va falloir qu'on structure nos opérations par la tech et qu'en gros on automatise un certain nombre de tâches qui nous prendraient beaucoup trop de temps. On peut pas se dire ah tiens, j'envoie un mail à la main pour réserver un hébergement le troisième jour de mon 700e départ du mois de mars, tu vois. En gros, t'es obligé d'avoir une certaine automatisation de ces tâches-là simples. Donc on s'est dit déjà objectif tech, bien comprendre notre métier pour être capable de créer une architecture tech et de devenir d'une agence de voyage à une travel tech. Ça c'était en gros première brique qui était le cas à l'époque de la première levée, qui l'est toujours, qui a même été le pitch de qui veut être mon associé. On va créer un module tech, etc. Et qui est toujours aujourd'hui, pour cette nouvelle levée de fonds, un des objectifs, parce qu'on veut toujours le renforcer. Après, il y avait aussi une capacité à créer du contenu. Ma vision, elle est qu'on vend du voyage et on vend de l'expérience par des testimonials d'expériences réussies de gens ordinaires en vidéo. Voilà. Ça, j'en suis convaincu. Donc, il faut créer de la vidéo, il faut tout créer en interne. À partir du moment où tu externalises ça, à partir du moment où ça devient un facteur clé de ta boîte, de toute manière, il ne faut jamais l'externaliser. Facteur clé de succès, il vaut mieux l'avoir en interne, ce savoir-faire-là. Ça coûte horriblement cher.
Ouais.
Du coup, et en plus, nous, l'accessibilité de nos voyages pour être capable d'avoir un preneur de contenu au fin fond de la Pampa, tu vois, ça coûte hyper cher, en fait. Et du coup, clairement, ça, c'était un gros domaine sur lequel on a travaillé. Comment on crée du contenu, comment on fait remonter du contenu de nos participants, comment est-ce qu'on le charte, mais pas trop charté, parce qu'il faut pas il faut que ça fasse brut et réel aussi, parce que c'est ça, les codes des achats de la nouvelle génération. C'est, je veux voir le vrai commentaire, tu vois. Je veux voir la photo dégueulasse dans TripAdvisor. En fait, c'est celle-là qui me convainc beaucoup plus que la belle photo de l'établissement officiel. La photo dégueulasse, la photo qui a l'air amateur et qui montre de manière amateur que l'endroit est bien. Voilà, en gros, donc il y avait un gros pan création de contenu. On a tout internalisé, tout s'est fait en interne maintenant, de notre podcast Homo Exploratus jusqu'à aux vidéos qu'on fait, tous les contenus, tout est internalisé. Donc ça a été un deuxième gros pan. Et puis après il y avait toute la partie, la troisième brique qui va être toute la partie CRM, relations participants, membership, création de communauté. C'est-à-dire comment est-ce qu'on interagit avec cette communauté là pendant le premier, et comment est-ce qu'en fait on la convainc et on la rassure pour que chaque membre qui s'inscrit sur le site achète une expérience qui l'épanouisse et dont il se sentira fier à son retour. Et bah du coup, pendant le premier confinement, on a fermé le site internet comme un voyage privé, par exemple. Tu vois, il faut être membre pour avoir accès. Ça, c'est vraiment un acte fort qu'on a posé au confinement, au 15 mars 2020. On a dit maintenant, tu peux plus voir notre site si t'es pas membre. Et donc, en fait, on s'est mis à avoir de zéro membre à 160 000 aujourd'hui inscrits sur la plateforme. Donc ça, c'est un asset de malade parce qu'en fait, on n'a pas à les retargeter, comme on dit. On n'a pas à racheter notre audience qui coûte hyper cher dans le tourisme, de racheter un client à chaque fois comme si tu l'avais jamais vu, etc. Donc ça permet de le connaître, de connaître sa navigation, de savoir ce qu'il aime, de lui proposer des choses qui sont adaptées à ce qu'il recherche. Et donc, lui, il se sent pas matraqué par des trucs dont il se fout, tu vois. Donc en fait, ça rend aussi beaucoup plus
l'expérience
utilisateur. Et donc, il y avait la mise en place de ça avec la première levée de fonds, et là, avec la deuxième, il y a l'organisation de ces 160 000 membres en parcours sur le site un peu plus un peu plus différenciés en fonction des envies de chacun, des communications qui sont moins push et un peu plus inspi et ciblées sur ce qu'ils recherchent, etc. Donc voilà, mais ça c'est quand même une derrière, c'est une grosse architecture de mailing, de travail de base, de tech, etc. Voilà. Donc en gros, c'est ces trois pans-là qu'on développe voilà, à Annecy. Donc on a aujourd'hui une dizaine et bientôt une quinzaine de postes ouverts sur notre page Welcome to the Jungle.
Ok, je mettrai ça derrière du podcast. Comment est-ce que tu progresses ?
Moi, je progresse beaucoup en observant et en échangeant avec des gens meilleurs que moi. Donc, assez vite, ça a été ma première quête quand je me suis retrouvé dans ce coworking de Genève le lendemain de ma démission. Enfin, le lendemain du jour où j'ai pu partir de ma boîte d'avant, je me suis retrouvé dans un coworking avec ma nouvelle adresse Gmail et aucun mail dans la boîte, tu vois, alors que j'en avais 1000 par jour, littéralement 1000 par jour. Donc je me suis retrouvé seul et je me suis dit, ok, donc il y a des trucs que tu sais faire dans la roadmap des prochaines semaines, et il y a des trucs, j'avais aucune idée, quoi. Donc hyper vite, je me suis dit, il faut absolument que tu te branches à des sachants, que tu te branches à des mentors, à des gens qui peuvent t'aider, tu vois, c'est vraiment très pragmatique, quoi. Et du coup, j'ai rappelé mon école. ah, tiens
10 ans après.
Il est vivant. Alors non, pendant ces 10 ans-là, effectivement, d'où l'importance de garder le lien, j'avais permis à beaucoup d'EDEC de rentrer quand même dans cette boîte-là,
la boîte
Cargill, dans laquelle j'étais, voilà. Cette boîte de trading. J'avais juste poussé leur CV, parce que je poussais les CV des gens que je pensais bons, tu vois, il n'y avait pas de favoritisme, mais en tout cas, ça aide toujours d'avoir une porte d'entrée.
Ouais.
Donc l'école, j'avais beaucoup donné d'un point de vue recrutement et insertion des diplômés pendant ces années-là. Donc effectivement, ils m'ont rendu en disant, bah voilà, on a EDEC Young Entrepreneur, je crois que c'était le nom du truc, on peut t'aider sur comment monter ta boîte dans le premier temps, machin. Donc je me suis branché à ça, ça m'a vachement aidé. De fil en aiguille, EDEC, alumni, comme tu vois, les anciens, tu montes un truc dans le travel, je te connecte à machin. Et là, j'ai pris littéralement une centaine de cafés avec la planète entière de gens qui pouvaient m'aider et faire progresser le projet. Il y a eu des ratés, des gens que j'ai commencé à faire rentrer dans le projet. Au début, tu dis, je peux te filer peut-être quelque part, parce que tu sens que la personne peut vachement t'aider à être clé, puis en fait tu reviens un peu, tu dis en fait non, pas du tout, c'était un mauvais chemin. Donc voilà, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas tout le temps pris, mais je me suis beaucoup entouré. Si j'ai qu'une qualité, c'est celle d'être capable de m'entourer de gens meilleurs que moi pour faire progresser la boîte. Et du coup, très vite, il y a eu les fondateurs de. Donc il y a eu Alix, il y a eu l'EDEC en premier lieu, il y a eu des premiers business angels.
Ouais.
Qui ont fait confiance au bout de 2 mois ou 3 mois, il n'y avait rien.
C'était donc tu t'es lancé avec des fonds.
Ouais, je me suis lancé avec des fonds.
C'est parce que sur du travel, tu n'as pas trop le choix en fait.
Pas si tu veux aller vite. Ouais. Ouais. On aurait pu faire la même chose avec, en allant 2 ou 3 fois plus lentement, mais ce n'était pas la personne que j'étais, tu vois.
Ouais, c'est
et
clair.
Donc, pour moi, il fallait que ce soit tout de suite.
Ouais.
Il fallait que ça aille vite, fort, tout de suite. Ouais, mais tu connais rien dans le travel. Ouais, mais on s'en fout parce qu'on est en train de développer un autre travel. Donc, de toute manière, c'est la page blanche. Donc, c'était un peu mon biais. Mais je savais quand même, au fond de moi, en disant ça, que effectivement, je ne connaissais rien au travel et qu'il fallait que je m'entoure de quelqu'un qui a été ensuite Alix. Levée de fonds, petite levée de fonds, tout de suite avec mes anciens boss aussi du trading et le premier environnement des anciens EDEC qui étaient autour de Genève. C'est qui avaient 40, 50, 60 ans, qui avaient des boîtes, qui étaient business angels. Donc on a pu lever 200 000 euros au bout d'un mois et demi, je crois.
Okay.
Et donc effectivement, ça aide énormément. Tu vois, ça aide énormément. Et ça, c'est grâce à ma vie d'avant, grâce au réseau que j'avais construit avant. Et effectivement, et ça,
c'est grâce à ta détermination, tu vois.
Etc. Et tous me disent maintenant, à l'époque, franchement, on ne comprenait pas grand-chose à ce que tu nous expliquais. On s'est dit, ça a l'air d'être une niche de niche de niche de niche. Parce qu'au début, en plus, Explora, c'était des expéditions engagées, hyper dures, hyper sportives. Tu vois, c'était des trucs à la MyCorn pour monsieur tout le monde. En mode, on va t'amener avec des modules de formation à faire des expés de tarés infaisables. Donc, laisse tomber, je ne sais même pas si j'aurais trouvé un seul client sur la planète. Mais donc, ils se sont dit, il n'y a aucun marché, mais on sait qu'il ne fera pas ça. Mais on sait que c'est lui qui le fera. Tu vois, en gros, c'était un peu ça qui m'avait dit.
C'est vraiment une confiance dans l'humain. Quoi.
Ouais, ils se sont dit, bon, là, il faut lui laisser le temps en tant qu'entrepreneur de redescendre un peu. Là, il est au début, là, la phase un peu, il est parti un peu partout dans tous les sens, et puis il va redescendre et il va faire un projet qui, qui, d'un point de vue business, a du sens. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, petit à petit. J'ai fait mon cheminement, quoi, à moi. Et donc, ouais, effectivement, ça a démarré comme ça.
Bon, bah super. Merci pour tes précieux conseils. J'ai deux dernières questions pour toi. Si tu avais une ressource à nous partager, un livre, un film, un podcast, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi?
Alors, il y a le bouquin « La 25e heure », qui est un super bouquin et qui permet de se rendre compte qu'on ne peut pas... qu'en fait, la vie, c'est être concession et organisation. En tout cas, le quotidien est concession, discipline et organisation. Et donc, et à se mentir sur « je veux tout faire sans concession et je peux tout faire », et ben en fait, on fait beaucoup de choses mal, on glisse, on dérape et on fait pas les bonnes choses. Donc ça, je crois que c'est vraiment important, cette prise de conscience, cette organisation, cette discipline, cette ritualisation du quotidien. En fait, ça paraît un peu chiant, mais au début, comme tous les nouveaux apprentissages, c'est très mécanique et il faut se fixer des règles et ça a l'air d'être une contrainte. À partir du moment où c'est devenu votre manière de travailler et que c'est devenu inné, c'est un gain de temps, d'énergie et de satisfaction pour toutes les sphères de votre vie qui est essentielle. Et après, je ne sais pas si c'est une ressource, mais c'est en tout cas un type d'enseignement ou un type de philosophie de vie qu'on peut trouver dans plein de différents supports, qui est l'idée de la vie, c'est un tabouret à quatre pieds. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot et il y a les projets moyen et long terme qui vous épanouissent et qui vous permettent de comprendre que cette vie n'est pas un petit cercle infernal ou répétitif. On a aussi des projets plus long terme qu'on construit un petit peu chaque jour. Si on n'a pas ces quatre pieds-là, on est triste, en fait, sur le long terme. Et il nous manque forcément quelque chose. On est capable de compenser, on est capable de se... De, effectivement, ça dépend comment sa vie est organisée, mais en tout cas, ces quatre pieds qui sont essentiels, qui sont dans des temporalités un peu différentes, qui nourrissent des parties du cerveau qui sont différentes, et donc il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc moi, ma ressource, et en tout cas mon encre, c'est d'essayer de me souvenir de ça et d'être extrêmement alerte des signaux faibles qui me montraient que je suis en train de balancer le tabouret d'un côté, de mettre trop de pression sur un pied. Attention, quand on met trop de pression sur un pied, on sait ce qui peut se passer. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me... C'est la leçon de ma propre vie des 10 dernières années et que je retrouve aussi maintenant dans des conseils sur les réseaux sociaux, tout un tas de conseils de vie, etc. Et qui fait un écho absolu chez moi. Et donc, c'est ça que je partagerai.
Super. Mais écoute, j'ai la dernière question à te poser, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
C'est déjà savoir prendre le temps pour être capable de prendre le pouvoir de sa vie. Je pense qu'il faut prendre le temps de savoir ce qui est important pour soi et ce qui nous fait grandir sur le long terme. Et c'est vraiment, c'est dans ce dernier mot qu'est toute la différence. Sur le court terme, on peut se dire ce qui est bien pour demain, ce qui est bien pour la semaine d'après, etc. Mais sur le long terme, des choses structurantes, quand je me retournerai sur ma vie, de quoi est-ce que je serai fier? De quoi est-ce que je serai fier, heureux et confiant de raconter à mes enfants, mes petits-enfants même? Qu'est-ce que je veux leur laisser? Et à partir du moment où on se pose cette question-là, je pense qu'on a un regard sur cette décision immédiate qui est très différent. Et on investit les pieds du tabouret peut-être un peu différemment. Je pense que tout naturellement, on prend le contrôle de sa vie sans force, avec douceur et confiance, quand on a fait ce travail préalable et qu'on l'exerce au quotidien, quoi.
Super. Ouais. Merci beaucoup Stan. J'ai passé un trop bon moment et c'était hyper intéressant. C'était le premier un peu aventurier entrepreneur que je reçois. Tu vois, il y a ces deux aspects que je trouve très chouettes. J'ai même pas dit, attends, je vais quand même le lâcher à la fin, mais j'en parlerai, tu sais quoi, en intro aussi, que j'ai fait une expédition d'Explora Project pour la bucket list. Mais de toute façon, les vrais savent déjà vu qu'ils ont vu la vidéo. Et que j'ai partagé, c'est franchement la vidéo que j'ai préférée à regarder de ce que j'ai fait.
Ah, c'est cool.
Je trouve que c'est elle est vivante, elle est drôle, elle est riche. Enfin voilà, je vous la mettrai aussi dans les notes du podcast. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur Explora, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Eh ben écoute, sur Instagram, principalement Instagram, Facebook, YouTube aussi. À la fois Explora Project et moi en perso sur Instagram, LinkedIn et Facebook. On est actif et du coup, vous pouvez carrément nous retrouver sur les réseaux.
Super, tout sera dans les notes et j'espère à très vite.
Merci beaucoup Louise.
Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant @stangruot et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.